France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuelle Davier.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce rendez-vous de la médiatrice programmé chaque dernier vendredi du mois sur France Inter. Ce rendez-vous, c'est surtout le vôtre, auditeur, puisque ce sont vos questions qui sont posées aux journalistes. Vous êtes toujours très nombreux à nous écrire. La saison dernière, nous avons reçu 184 000 messages et pour la seule période du confinement, 60 000 auditeurs nous ont écrit et c'est considérable. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'essentiel de ces remarques sur le site de la médiatrice et dans la lettre publiée chaque vendredi. Cette lettre fait le point sur tout ce qui passe à l'antenne et qui fait réagir les auditeurs. Et ce qui domine encore largement dans leurs remarques en ce mois de septembre, c'est évidemment la couverture journalistique de la crise sanitaire. Et nous y revenons aujourd'hui dans cette émission avec Daniel Messager, spécialiste santé. Bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Lefébure, directeur de la rédaction de France Inter. Bonjour.
Bonjour.
La Covid-19 conditionne donc désormais notre quotidien et elle interfère même dans notre rapport à l'information. Certains la délaissent car ils la jugent trop anxiogène, d'autres au contraire la veulent exhaustive, notamment quand il s'agit des chiffres de la Covid, sujet sensible dans les messages des auditeurs.
Nous venons d'avoir les chiffres de la progression de l'épidémie de coronavirus. La France a enregistré aujourd'hui un nouveau record des cas de contamination avec 13 498 nouveaux cas diagnostiqués ces dernières 24 heures.
Et ce n'est pas terminé pour l'OMS qui recense 308 000 cas dans le monde pour la seule journée d'hier. C'est un record. La pandémie s'arrêtera un jour, mais l'automne sera plus dur en Europe, d'après le directeur de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'attend à une mortalité plus élevée en octobre et en novembre, et appelle d'ores et déjà à une réponse ciblée, mais sans confinement généralisé.
Une épidémie de chiffres et une critique. Les auditeurs reprochent aux journalistes de ne mentionner que le chiffre des testés positifs à la Covid. Pour eux, ce n'est pas une présentation éthique, fidèle et complète de la réalité. Voici un message. Pouvez-vous mettre en parallèle lors de vos journaux le nombre de cas Covid positifs avec les trois chiffres les plus importants que sont le nombre d'hospitalisations, le nombre en réanimation et le nombre de décès? À force d'assommer les auditeurs avec le premier chiffre qui ne reflète absolument pas la réalité, vous faites de la désinformation. Des auditeurs plaident donc pour une remise en perspective de tous les chiffres et Philippe Lefébure, une auditrice, nous demande même si la question du décompte des personnes infectées par la Covid-19 a fait l'objet d'une réflexion de la rédaction.
Bon, on réfléchit tous les jours, donc oui, il y a une réflexion sur ce qu'on fait à l'antenne, Dieu merci, et ça évolue. Première chose, cette information existe, donc on la donne, évidemment. On nous reprocherait de cacher une information si on ne la donnait pas, et ça tombe le soir, donc vous l'entendez sans doute beaucoup dans les flashs du soir, le journal du soir, un peu moins ensuite le lendemain matin et le reste de la journée. Donc l'information existe, on la donne. Mais bien sûr qu'il faut éviter de tomber dans le piège. Comment dire ? Moi, j'ai fait longtemps, j'ai traité l'économie et je sais le piège que constituent les chiffres et les statistiques. Donc, un chiffre brut ne veut rien dire, un seul chiffre ne veut pas tout dire, cache une partie de la réalité. Donc, évidemment, la consigne est donnée de rendre public le chiffre et le nombre de cas, mais ça doit s'accompagner du reste. Effectivement, et je parle sous le contrôle de Daniel, le nombre des hospitalisations, c'est important, le nombre de personnes en réa, c'est important, le taux d'incidence. Donc, dans un flash, on peut pas donner, mais dans les journaux, évidemment, on essaye de remettre en perspective. Il y a deux pièges dans cette crise quand même, hein, c'est d'être au jour le jour, regarder les chiffres chaque soir et d'en tirer des enseignements, chercher un virage, un tournant dans la crise, je crois qu'évidemment c'est faux. Et puis l'autre, c'est de ne pas contextualiser, de ne pas chercher à expliquer ces chiffres. Je crois que cette critique, elle arrive depuis début août en fait. On a beaucoup reproché de donner le nombre de cas positifs. Exactement. Chaque jour, parce qu'on était dans un moment où on pensait qu'effectivement on était sorti de cette période. On a eu un mois de juillet, un peu une parenthèse enchantée là dans cette crise. Et puis début août, c'est reparti. On a vu ces chiffres un peu grimper, qui n'étaient pas du tout dans les proportions de février, mars ou avril. Donc on nous a reproché d'en faire trop sur ces chiffres. Aujourd'hui quand même, il faut les regarder attentivement. Combien de personnes en réanimation, combien de morts, combien de cas. C'est important, je crois, mais on contextualise, évidemment.
Philippe Lefébure, comment vous faites, comment vous procédez pour communiquer les chiffres des autres pays où la réalité est différente? Ça, c'est une question assez récurrente des auditeurs.
On fait très attention parce qu'on sait que d'un pays à l'autre, on ne compte pas de la même façon. On a beaucoup fait ce qu'on appelle des encadrés, hein, des explications pour dire, voilà, on sait que la Belgique avait un taux important ramené à sa population globale, mais elle comptait, elle avait décidé de compter eh bien tous les morts, les mettre dans le cas Covid. La France, c'était plus compliqué, on a eu du mal à savoir, les morts dans les EHPAD, les morts ailleurs. La comparaison internationale est très, très compliquée. Donc, il y a des totalisations mondiales que sortent les agences. Moi, je préconise plutôt de s'en méfier, hein, et de faire très attention de ne pas les donner comme ça, sans rappeler que les calculs sont un peu différents.
Daniel Messager.
Oui, puisqu'on parle des chiffres, je peux ajouter qu'on n'a toujours pas officiellement le nombre de chiffres de personnes décédées à domicile. Les chiffres de morts qui sont donnés actuellement ne les comptent pas parce qu'il y a encore plein de notifications qui se font par papier et pas électroniquement. C'est paraît incroyable, mais c'est le cas. Donc c'est très long à remonter. Nous, on a donné un chiffre qui avoisine les 2000 morts, parce que l'INSEE avait sorti un certain nombre de données estimant qu'au-delà de ces chiffres, on pouvait en parler, mais ces chiffres n'ont toujours pas été repris, on peut le constater au quotidien par le ministère de la Santé pour l'instant.
Oublions pas les chiffres bruts quand même, hein. 200 000 morts aux États-Unis, c'est 200 000 familles endeuillées, on approche 1 million de morts dans le monde. Quand même, ces chiffres parlent et disent l'ampleur de la crise sanitaire.
Philippe Lefebure, comment informer la population pour qu'elle se protège sans être accusée de suivisme vis-à-vis des autorités ?
Nous ne sommes pas aux ordres. On ne reçoit aucune indication pour nous dire ce qu'on doit traiter sur notre antenne. Nous sommes des journalistes responsables et on essaye donc de traiter ça le plus intelligemment possible. Face à une crise telle, quand même, on a, et je crois que c'est un peu l'ADN de cette maison, un réflexe légitimiste. Donc, surtout dans cette période quand même de défiance généralisée envers les institutions. Et on a raison, quoi. Il faut quand même, et c'est ce qu'on a fait dès le départ, relayer les messages de prévention, le message sanitaire du gouvernement et des autorités sanitaires du pays. Je crois que ça me paraît essentiel. Ensuite, pardon, mais je crois qu'on a beaucoup donné la parole à ceux qui ont critiqué cette parole officielle sur les masques, sur les tests, on continue. On a entendu toutes ces voix discordantes, on a beaucoup entendu des gens nous dire que c'était trop flou, que le discours changeait, on a signalé les incohérences, on a questionné les ministres et les responsables sanitaires qui sont venus sur nos plateaux. Donc voilà, il faut donner la parole à tout le monde et je crois que c'est ce qu'on fait.
Et quel est le choix éditorial que vous faites pour relater les enjeux éthiques, les inégalités sociales engendrées par cette crise sanitaire ?
On a fait des sujets, évidemment, on est allé en reportage. Il y a le débat éco, je trouve, qui enrichit justement notre couverture. On entend une voix, la voix de Thomas Piketty face à Dominique Seux tous les vendredis. Je crois que ça donne aussi de nouvelles indications, une autre façon, une autre lecture de la crise. Et puis nos invités, évidemment, sont venus contester, sont venus dire les conséquences de cette crise sur l'antenne. Donc, il me semble, après on peut toujours estimer que c'est pas assez, il me semble qu'on a pointé évidemment les inégalités qu'ont provoqué cette crise.
Parmi les images marquantes de la première vague dans les hôpitaux, il y a celle de tous ces patients intubés en réanimation. Aujourd'hui, avec une pratique de plusieurs mois, les médecins procèdent différemment. Le professeur Gabriel Steg est chargé de la recherche à la PHP.
Au lieu d'utiliser un tuyau qu'on met dans la trachée pour ventiler avec une machine les patients qu'on a endormis, on les endort pas, on leur met des masques avec de l'oxygène à très fort débit pour les aider à respirer.
L'autorité s'appuie sur les résultats intermédiaires d'une étude faite en Guyane cet été sur 700 patients. Elle a comparé prélèvement nasal et salivaire. Au vu des résultats, le nasal reste plus performant, mais le salivaire montre une fiabilité sur les patients symptomatiques d'environ 75%.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvy.
Dans les livres d'histoire à propos de l'année 2020, il sera écrit que pendant 6 mois, des milliers d'enfants ne sont pas allés à l'école. Ce 1er septembre, c'est donc la reprise, mais avec des enseignants à tout niveau masqués face à des élèves masqués à partir de la sixième.
Informer en temps de Covid-19 est une mission exigeante et délicate pour de multiples raisons. Le travail des journalistes est donc constamment soumis à la critique, le public souhaitant à la fois une information médicale et scientifique exhaustive, mais dénuée de tout caractère anxiogène. C'est ce qui ressort des courriers. Daniel Messager, comment parler du coronavirus sans générer de l'angoisse ?
Alors, comme Philippe le rappelait, déjà il y a des faits. On va pas nier le fait qu'on a bientôt le million de morts, qu'il y a 200 000 morts effectivement aux États-Unis, que la progression augmente, on fait notre travail d'information, les faits sont là. Ça, c'est le côté peut-être anxiogène, mais auquel on ne peut pas échapper, mais il y a aussi des éléments positifs qui ont été modifié ces derniers mois. Et tout à l'heure, on évoquait justement dans le petit extrait que vous avez passé les améliorations de traitement, de prise en charge des malades. Ça, c'est un élément positif. Donc, on tempère. Voilà, c'est vrai qu'on prend mieux en charge. Certains infectiologues disent que la mortalité peut être réduite de moitié aujourd'hui. On oxygène mieux. Il y a des médicaments comme les corticoïdes. Certains ont dit que c'était un vrai tournant dans la prise en charge, ces corticoïdes. Les anticoagulants, on prend mieux en charge. On va moins mourir. C'est une épidémie. Il faut la considérer comme telle. Une épidémie comme on n'en a jamais connue avant. Mais on sait mieux prendre en charge les malades. Et ça, c'est un élément d'espoir quand même. En espérant que peut-être un jour, on trouvera un antiviral, ce qui n'est toujours pas le cas, effectivement.
Alors, ce que l'on constate, c'est que le traitement journalistique de cette crise sanitaire est évidemment truffé de difficultés. Comment vous procédez concrètement pour accomplir ce travail d'information quand l'actualité est à ce point évolutive, et c'était particulièrement vrai au printemps dernier?
Alors, il y a une chose qu'il faut poser d'abord, c'est que le temps de la recherche n'est pas le temps des médias. Françoise Barré-Sinoussi, Nobel de médecine, l'a rappelé quand elle a pris la présidence de CARE, qui était un ensemble de chercheurs pour faire avancer justement ces données. Donc, on ne peut pas rendre compte de tout. Ce qu'on peut constater dans cette crise, c'est qu'en termes de recherche, il n'y a jamais eu un tel foisonnement. Ça, c'est le côté positif, on peut dire, parce que beaucoup d'équipes se sont lancées dans des tas de recherches en se disant, il faut absolument parvenir à quelque chose, tellement cette épidémie est compliquée. Le côté négatif, c'est qu'il y a eu trop de recherches, justement. Ce sont de petites équipes qui se sont montées un petit peu partout. C'est l'agence du médicament, la ANSM, qui donne l'autorisation, mais elle n'a pas le pouvoir de dire, ah mais ça c'est redondant, il y a déjà une équipe qui travaille là-dessus, d'obliger les chercheurs à se mettre ensemble. Et vous avez raison de souligner que à l'arrivée, pour nous, journalistes, c'est très compliqué de faire la part des choses. Donc il faut attendre que ce soit des vraies publications qui étaient relayées et relues par les pairs scientifiques pour s'autoriser à en parler. Parce que effectivement, on n'y comprend plus rien et l'auditeur n'y comprend plus rien.
Oui. Moi, sur les réanimations, je vois qu'on a passé la barre des 600 pour la première fois depuis le mois de juin.
Ce que vous êtes en train de dire, si vous voulez, vous relayez sans filtre ce que envoie Santé publique France.
Mais personne ne dit qu'il va y avoir une vague comparable. Déjà, personne ne dit qu'il va y avoir une deuxième vague forcément. Même Jean-François Delfraissy est plutôt mesuré sur cette deuxième vague. Et si deuxième vague il y a, personne ne dit qu'elle sera de la même ampleur que la première. Ça, vous n'entendez pas ça dans les discours.
Mais j'en sais rien, mais en tout cas...
Non, mais ça, ce n'est pas dit, puisque vous critiquez la communication.
Une menace pèse sur toute la population. Vous pouvez tout de même pas nier ça.
L'histoire d'un virus qui serait éventuellement moins virulent, donc moins transmissible ou moins grave, c'est une histoire qui est complètement construite. On
c'est
en
faux,
fait rien
c'est
pour
une
l'instant.
Fake news.
Pour l'instant,
parce que c'est
faux.
La revue scientifique Cell qui l'a qui
alors
l'avait
attention,
annoncé.
Ce n'est pas la revue scientifique Cell, c'est l'interprétation que l'on a faite de cet article dont on a eu les données en avril, donc ça fait déjà quelques temps, puis qui a été définitivement publié en juillet et puis interprété en juillet. Donc non, pour l'instant, on ne peut pas transposer dans la vie réelle ce que l'on voit dans les tubes à essai.
Vous venez d'entendre successivement l'interview du chercheur épidémiologiste Laurent Toubiana par Mathilde Munoz le 11 septembre dernier et celle de Karine Lacombe, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, invitée du grand entretien avec Léa Salamé et Nicolas Demorand le 24 août dernier. Daniel Messager, c'est une question des auditeurs. Est-ce que tous les points de vue médicaux et les différentes voix scientifiques sont entendus sur l'antenne et dans vos reportages particulièrement?
Eh bien, sont entendus les scientifiques qui ont légitimité à être entendu. Donc, évidemment, un certain nombre de chefs de service, de chercheurs. Si vous faites référence à l'hydroxychloroquine dont on a beaucoup parlé, on a aussi entendu chez nous le professeur Raoult, mais on a aussi démontré que des essais ne pouvaient être validés que quand ils étaient randomisés, que quand le contexte n'était pas biaisé. Je peux vous citer Dominique Costagliola qui est une grande chercheuse à l'INSERM et à la Sorbonne, qui dit « affirmer le contraire est malhonnête ». Donc voilà, on a donné la parole, on ne va pas le faire en permanence, parce que je crois que le débat sur l'hydroxychloroquine maintenant est clos.
Philippe, juste un petit mot, on a essayé de dépersonnaliser ce débat. Voilà, il y a eu le grand personnage de Didier Raoult qui est apparu, qui disait quand même en février, c'est la maladie la plus facile à traiter, donc c'est lui-même s'est pris quand même dans le piège de ses déclarations un peu choc. On a essayé de ne pas trop parler du personnage et de rester sur le traitement qu'il proposait, l'hydroxychloroquine, et je pense qu'on l'a, voilà, on a traité la question de l'efficacité de ce traitement Et on l'a traité de façon équilibrée, voilà, on y est revenu plusieurs fois quand même.
Et on l'a traité même aussi à une époque où le Lancet s'est fourvoyé sur une étude finalement qui n'était pas intéressante. Donc voilà, je crois qu'on l'a traité vraiment sous tous ses angles et qu'à un moment, il faut estimer que le débat est clos.
Daniel Messager, le 16 septembre dernier, la députée LREM Céline Calvez a dévoilé les résultats de son rapport sur la place des femmes dans les médias durant la période de crise sanitaire. Le constat est sans appel, hein, de mars à juin 2020, les femmes ont beaucoup pris la parole comme mères ou infirmière, mais trop rarement en tant qu'experte ou dirigeante. Alors pour la mission parlementaire, l'urgence liée au Covid-19 a bousculé les pratiques des médias et fait reculer leur vigilance sur la présence des femmes expertes dans leur contenu. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
C'est un peu en fait comme s'il y avait eu un effacement des femmes pendant cette crise. Je crois avoir lu qu'il y avait eu 3000 experts qui avaient été interviewés pendant cette crise, 20% de femmes. 20% de femmes. C'est le reflet du fait qu'à la tête de ces services-là qui étaient hyper représentés, l'infectiologie et la réanimation, et ben ce sont quand même encore beaucoup d'hommes. Et c'est quand même un paradoxe parce que dans le milieu médical, ce sont les femmes qui sont les plus représentées. Il y a 52% de femmes médecins à l'hôpital et on a entendu énormément d'hommes. Donc il y a quand même un équilibre à rétablir, pas forcément chez nous les médias. Enfin, on doit aussi en chercher davantage, mais voilà un message aussi à la chefferie dans les services des hôpitaux.
Daniel Messager, en tant que journaliste, qu'avez-vous appris de cette période ? Est-ce qu'il y a dans le traitement de l'information des choses que vous ne referiez pas ?
Ce que j'ai appris, c'est que effectivement, il faut prendre beaucoup de recul et qu'il y a des choses que je ne dirai plus aujourd'hui. Je me cache pas derrière mon petit doigt. Moi aussi, journaliste, j'ai relayé des messages. Je prends l'exemple des masques. Et ben, au début de l'épidémie, on nous disait les masques, ça ne sert à rien d'en porter. En fait, on ignorait qu'il y avait pas de masques, donc effectivement, on ne pouvait pas en porter. Mais évidemment, je ne redirai plus ça aujourd'hui. Et ça, il faut avoir en tête qu'on a relayé peut-être des messages sur lesquels on aurait dû plus travailler parce que ô combien on voit l'importance des masques aujourd'hui et peut-être qu'il aurait fallu davantage regarder les populations asiatiques qui savent se comporter face à des épidémies et qui portent en permanence ces masques. C'est vrai qu'il faut avoir ça en tête. On a relayé aussi, par exemple, que les enfants étaient très transmetteurs parce qu'on s'appuyait sur des épidémies anciennes. On s'appuyait sur la grippe, par exemple, ou en cas de grippe, ce sont les enfants qui sont vecteurs de la grippe, effectivement, et qui transmettent. Mais là, ce n'est pas le même virus, c'est un virus nouveau. Donc nous aussi, on a appris et nous aussi, on doit tenir compte de ces expériences-là.
Philippe Lefébure, comment on renforce la lutte contre la désinformation lors d'une crise sanitaire comme celle-ci, où on le voit, les infox, les fake news prospèrent ?
On s'appuie sur nos experts, nos expertes, Daniel Messager ici. Moi, je suis un peu contre le systématisme du fact-checking, parce que il y en a trop, et puis on légitime d'une certaine façon la fake news. Donc on essaye de repérer les plus énormes, et celles qui ont une utilité publique à être désamorcées le plus rapidement possible. Mais voilà, on n'a pas une équipe, nous, de fact-checker permanent. Je crois que c'est plus utile de pointer les plus dangereuses, on va dire.
Dernière question. Les auditeurs se disent exaspérés d'entendre parler du coronavirus. Que leur répondez-vous ?
Je leur dis que malheureusement, on ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas traiter d'autres choses. Quand on fait le Tour de France, on parle que des mesures sanitaires. Roland-Garros bientôt. C'est la vie. On espérait tous une rentrée différente. Je pense qu'on espérait une deuxième vague où elle était possible, mais peut-être en hiver. Et là, elle est là tout de suite. Elle a commencé dès l'été. Et je crois que on est tous un peu plombés par cette rentrée sous Covid. Bien sûr.
Merci Daniel Messager.
Merci.
Et merci Philippe Lefébure d'être venu répondre aux questions des auditeurs. C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice. À la réalisation de cette émission, Anne-Cécile Perrin, et à la technique, Johanna Gabric. Si vous souhaitez faire une remarque sur une émission, poser une question sur la ligne éditoriale de France Inter, n'hésitez pas à écrire sur le site médiatrice de Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook.